m'appelle donc avec son alarme, je travaille au... J'ai pas de transparent. c'est, vous étonnez pas. Donc je travaille au Centre de sociologie et d'innovation et je vais vous parler des quelques premiers résultats, plutôt de, en fait, d'une réflexion qu'on est en train de mener dans le cadre d'un projet qui s'appelle Lapin, labellisé pour innover, qui a débuté juste cette année. Oui, on a trouvé un acronyme qui retenait l'attention. Donc, qui a débuté juste cette année, qui est un projet financé par l'ANR, sur lequel on travaille à plusieurs labos. On est quatre labos, donc le CSI auquel j'appartiens, où on est avec mon collègue Brice Laurent, le CSTB auquel appartient Aurélie, donc qui fait semblant d'être tout à fait extérieur à tout ça, mais en fait qui est partie prenante de ce projet. Je pense que c'est pas utile de le cacher. Voilà. EDFRED, donc Véronique Béant est dans la salle, au fond de la salle, et puis on a nos collègues du Centre de gestion scientifique de l'École des Mines. Donc l'objectif du projet, c'est d'examiner la manière dont les labels contribuent à mettre en forme le pilotage de l'innovation dans un contexte de développement durable et sur le secteur plus particulier du bâtiment. Donc on vient d'un horizon de sociologie, les uns et les autres. Il y a des gestionnaires dans le projet, mais globalement, c'est des gestionnaires très, très sociaux compatibles, donc c'est ce qui fait qu'on s'entend bien avec ensemble. D'un horizon de sociologie, plutôt de sociologie d'innovation, dans la lignée des travaux qui ont été faits au Centre de sociologie d'innovation notamment. Donc pourquoi, comme vous le comprenez, le domaine secteur de la construction, c'est un domaine qui se prête particulièrement bien à s'intéresser aux labels, puisque les labels y jouent un rôle de toute façon central, indépendamment même du développement durable pour tout ce qui est de la conception. Les labels au sens de normes, les normes techniques, c'est un domaine dans lequel la construction de la technique passe par la construction des normes, et c'est un domaine évidemment dans lequel la montée des exigences du développement durable s'est marquée ces dernières années par des labels dont on a parlé là sur par exemple les labels de consommation énergétique, mais aussi il y a tous les labels concernant des techniques de construction, bâtiments biosourcés, des labels qui concernent des professionnels, des qualifications, par exemple pour cibler les artisans qui ont les compétences nécessaires pour faire des travaux compatibles avec le développement durable, etc. Donc dans l'ensemble de cette problématique, qui est assez vaste, la problématique du projet, en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est issu d'un papier qu'on a présenté il y a peu de temps à l'Association française de sciences politiques, qui montre un petit peu quel est le cadre, notre question, quel est le cadre analytique qu'on a, et puis quelques premiers résultats émergents, et qui cible en fait sur le rôle, la manière dont on peut aborder la question du rôle de la puissance publique dans ce travail de labellisation, et dont la manière dont en fait la puissance publique mobilise les labels ou peut les mobiliser dans une perspective de développement durable. Donc par rapport à la réflexion là, qui est plus précisément celle du séminaire, autant sur la question d'acceptabilité sociale, je pense pas qu'on ait forcément des contributions très directes à cette question. Elles seront peut-être plutôt indirectes, elles reviendront peut-être dans la discussion. Mais très clairement, par rapport à la question de qu'est-ce que c'est qu'une approche critique du développement durable, une partie, je pense, de ce qu'on fait dans ce projet permet d'avancer et de raisonner sur ces questions-là. En particulier, je pense qu'une manière d'aborder le rôle de la puissance publique dans la coordination de l'innovation par les labels, c'est de dire que dans ce secteur, les acteurs publics contribuent par un certain nombre d'actions à installer des labels qui sont pensés dans une perspective de développement durable, et que le marché se cale sur ces labels. Enfin, en tout cas, ces labels vont être, dirigés vers le marché, et qu'une des questions, c'est celle de l'efficacité marchande de ces labels. Hein. C'est-à-dire, en gros, là, on est dans une question assez classique, de sciences politiques, qui est comment est-ce que les acteurs publics agissent sur la société par le biais de l'économie, c'est-à-dire en organisant les marchés, en organisant l'activité économique. Donc ce petit modèle là que j'ai évoqué assez rapidement, qui consiste à dire il y a finalement quelque part des acteurs publics qui construisent des normes que les acteurs du marché sont supposés s'approprier, il fait un certain nombre d'hypothèses qui sont périlleuses à mon avis. Il en fait trois en particulier qu'on peut récupérer dans une réflexion sur les approches critiques du développement durable. Donc la première hypothèse, c'est le partage entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que la puissance publique est là pour définir des intérêts de politique publique et que les acteurs privés sont là essentiellement motivés par la recherche du profit. Donc ça correspond un peu à la figure dans laquelle un ministère met en place une norme qui va permettre d'aller vers un objectif de politique publique, ici de durabilité. Et puis une fois que la norme est mise sur le marché, bah les acteurs s'en emparent, mais ils s'en emparent pas spécifiquement parce qu'ils sont intéressés eux-mêmes par le développement durable, mais ils s'en emparent parce qu'il y a une dynamique économique derrière qui fonctionne. Donc ce partage entre d'un côté un gouvernement qui serait pris dans les acteurs publics et des acteurs privés, des acteurs marchands qui eux agiraient selon des logiques de l'intérêt privé, il est fragile à mon sens des deux côtés, c'est-à-dire que d'une part la puissance publique peut tout à fait soutenir des intérêts privés, notamment des intérêts industriels, c'est ce qu'on voit un peu sans arrêt, c'est avec Marie qu'on discutait ce midi du fait que certaines politiques de développement durable sont en fait des politiques industrielles, c'est-à-dire l'objectif c'est bien la durabilité, mais en fait c'est de relancer un secteur, de le faire fonctionner parce que créer de l'emploi, éviter de la croissance, etc. Donc d'un côté la puissance publique elle-même, pour qu'elle puisse formuler des objectifs politiques qui seraient détachés des acteurs, détachés des enjeux marchands, il faut un certain nombre de conditions. Par exemple, tout le débat politique qu'on a en ce moment, par exemple sur le fait que le gouvernement fait des cadeaux aux entreprises, l'idée que par exemple une politique fait des cadeaux aux entreprises, on voit bien qu'elle met en tension à la fois l'idée qu'il y a faire de la politique et faire du marché, ça ne fonctionne pas forcément très bien ensemble. Donc l'autre raison pour laquelle le partage des intérêts publics et privés est fragile, c'est que les entreprises sont bien là, a priori, pour la recherche du profit, mais enfin on sait très bien qu'elles ont des politiques elles-mêmes de développement durable, ce qui veut dire que même quand il y a beaucoup de greenwashing et quand il y a beaucoup d'hypocrisie dans la façon dont elles peuvent développer leur position, dans un certain nombre de cas, elles savent elles-mêmes se donner des objectifs compatibles avec le développement durable, des objectifs de long terme, etc. Alors la deuxième hypothèse qu'il faut remettre en cause dans ce modèle-là, c'est l'idée de la cohérence de l'action publique. C'est vraiment des choses très standards, je pense, en sciences politiques, c'est-à-dire l'idée qu'il existe un acteur public qui légitime et surplombe les autres pour agir en matière de labellisation, elle tient pas très très bien, elle tient pas du tout. Dans les cas qu'on étudie sur les labels, on voit bien que, mais ça serait vrai dans des tas d'autres cas, il y a une imbrication entre des acteurs qui sont dans des horizons très très différents, notamment à l'horizon régional. Il y a des labels qui ont été poussés par des régions, des collectivités locales, par exemple c'est le cas des labels Effinergie et BBC, dont je vais parler un tout petit peu tout à l'heure. Il y a des labels évidemment poussés par la puissance publique nationale, et puis évidemment aujourd'hui de plus en plus il y a l'échelon européen, communautaire, qui s'impose de plus en plus. Donc l'idée qu'il y a une cohérence, une unicité de l'action publique, n'est pas une hypothèse du tout qu'on peut prendre dans ce cas-là. Alors, le troisième angle d'attaque pour aborder cette question qui est liée au modèle que j'évoquais, qui rend le modèle plus ou moins réaliste, c'est l'idée qu'en fait les labels pourraient être utilisés comme des instruments qui seraient disponibles. La puissance publique, d'une certaine manière, disposerait de l'expertise pour définir sa politique. Elle saurait quels sont les objectifs de long terme à atteindre. Par exemple, il y a le facteur 4, il a été bien travaillé à des niveaux divers et variés, donc on voit bien les quelques critères du facteur 4 qui ont été, on va dire, mis au point de façon indépendante, si on peut dire, de questions économiques, de questions de dynamique économique. On a les objectifs et puis on te mettrait les moyens pour y aller. Donc c'est la définition d'un instrument. Il y a un objectif, il y a un moyen, donc on a un instrument. Donc toute l'approche en sciences politiques qui aujourd'hui s'intéresse à la gestion publique par les instruments, les travaux, l'ASCUM, le GALES, je pense que précisément elle met en cause cette idée qu'il y a une évidence du lien entre le moyen et fin. Et elle montre bien, je crois qu'une de ces... Une de ses ambitions, c'est de montrer que l'articulation entre les moyens et les fins n'est pas un donné pour l'action publique et que la plupart du temps, elle se construit dans la mise en œuvre des politiques elles-mêmes. Voilà, donc je pense que ces trois éléments, on va dire, critique de la cohérence de l'action publique, critique du partage entre privé et public et critique du label comme instrument, sont trois éléments qu'on peut garder en tête quand on cherche un petit peu à comprendre, à aborder la manière dont les acteurs publics interviennent en matière de labellisation. Alors ce qu'on fait dans le programme de Lapin, c'est précisément d'essayer de comprendre comment est-ce que l'histoire des labels, l'histoire de certains labels, nous aide à comprendre justement ces trajectoires d'intervention de la puissance publique. Donc on a pour objectif de prendre dans ce projet des labels, plusieurs labels, et d'en retracer l'histoire pour comprendre justement comment s'est passé ou comment se passe l'imposition de position de ce type-là. Alors quand on commence à réfléchir à cette question, on se rend compte tout de suite qu'il y a une diversité de choses derrière la notion de label. Donc on a fait un petit travail analytique en s'appuyant sur les recherches qui existent depuis très très longtemps sur les questions de normes, normalisation, certification, réglementation. Et le petit travail analytique en question nous pousse à distinguer quatre types de configurations. Le premier, en fait, c'est celle des labels réglementaires. Donc là, on est dans la situation dans laquelle l'acteur public édicte une réglementation. Donc il dit, on voudra que telle technique respecte telle caractéristique. Donc il y a bien un label, il est réglementaire, il est imposé par la puissance publique. C'est par le législateur. On est dans le cas classique de la réglementation. À l'autre opposé de ça, on a le mode de coordination qui est, lui, complètement marchand par le standard. Donc là, le standard, qu'est-ce que c'est qu'un standard? C'est un label qui va se mettre en place de façon émergente par le jeu du marché. L'économie de la standardisation s'est intéressée, elle a très très bien qualifié ces situations-là, pas dans le bâtiment, mais dans des secteurs comme l'informatique ou d'autres secteurs dans lesquels elle a étudié les guerres de standards. Et donc les dynamiques qui font que dans un marché, quand il y a une variété technique, il y a un moment ou un autre des standards qui émergent. Enfin, la propriété du standard, c'est précisément qu'il y a une faible coordination en dehors de la coordination marchande, c'est-à-dire que c'est vraiment le jeu de l'offre et de la demande qui fait qu'au bout d'un moment émergent, par exemple dans le cas de l'informatique, deux standards, un standard Macintosh, un standard Windows, et que tout le reste du marché se cale sur ces deux standards-là, toutes les résidus de variété technique disparaissent. Donc entre d'un côté les labels réglementaires et de l'autre côté des standards, on trouve des positions intermédiaires. La première, la plus connue, la plus fréquentée, c'est celle des normes, évidemment, les labels normatifs. Donc dans la norme, qu'est-ce qu'on a? On a en fait des institutions qui contribuent à déterminer le contenu du label, mais ces institutions-là, elles intègrent en fait les acteurs du marché. Au lieu que ce soit les transactions qui déterminent l'émergence du label comme dans le cas du standard, il y a un travail de discussion et de négociation. Et une quatrième catégorie de dispositifs qui relève du label, là s'appelle un peu plus proprement label dans les recherches qu'on trouve notamment dans le domaine de l'environnement ou de l'agroalimentaire, c'est tout ce qui est de l'ordre des appellations contrôlées et des labels. Il y en a eu beaucoup dans le domaine de l'agroalimentaire. Et là, ce qui les distingue des trois configurations précédentes, enfin, de la configuration normative précédente, c'est que ce n'est pas des institutions, on va dire, dont la vocation en tant que telle est de faire de la normalisation, comme l'ISO, comme le CEN, comme même éventuellement le CSTB. Vraiment, la vocation, c'est de faire des normes de façon complètement transverse, mais c'est des collectifs qui émergent et qui se structurent précisément autour d'une question, d'un problème, d'un projet, etc. Donc on trouve dans le bâtiment ces quatre configurations-là, et ce qui nous intéresse, enfin ce qu'on essaie un petit peu de voir au stade où on en est, qui est un stade assez émergent, c'est comment est-ce que ces quatre configurations-là sont mobilisées dans des dynamiques aujourd'hui de construction des labels. Donc on a fait un petit travail, pour l'instant on en est tout début du projet, on a fait un travail qui nous a amené à regarder trois types de terrains dans lesquels on voit ces alternances entre ces différentes formes de coordination qui pour l'instant pour nous spécifient trois types d'intervention de la puissance publique. Mais on ne prétend pas du tout que ce soit exhaustif, donc c'est vraiment plutôt issu de notre réflexion. Donc un premier type d'intervention, c'est autour du pilotage des labels. C'est-à-dire, il y a une première façon pour les acteurs publics d'intervenir, c'est de contribuer à la fabrication des labels, ou quand ce n'est pas eux qui les fabriquent, en fait à leur guidage, à leur orientation, à leur récupération. Ça, c'est la première modalité qu'on a vu, et en particulier au stade où on en est, dont on a essayé un peu de comprendre la logique au travers d'une histoire que nombre d'entre vous connaissent peut-être très bien, en tout cas Gilles sans doute très très bien, c'est l'histoire de la montée alternative entre HQE d'un côté et Finergie de l'autre côté, Finergie BBC. Donc une deuxième modalité d'intervention de la puissance publique, on l'a repérée dans nos travaux de documentation de terrain émergent autour d'un travail qui est fait par le plan bâtiment Grenelle, qui est un travail qui a été fait dans les deux dernières années, qui est sur le sur le, on va dire, on appelle ça, on a appelé ça nous dans le papier, la mise en ordre du domaine de la labellisation. Donc il y a eu un travail qui a été fait sur les signes de qualité dans le bâtiment. Vous avez sans doute entendu parler parce que il a fait pas mal de bruit. Où l'objectif c'était de dire, bah, il y a beaucoup de signes de qualité dans le bâtiment et comment est-ce qu'on peut faire pour y voir plus clair. Donc le groupe du Grenelle Environnement en question, qui a été piloté par, dans les chantiers de Pelletier là. C'est un groupe qui a travaillé pendant un an et qui a abouti à un rapport avec toute une série de recommandations sur la manière dont on pouvait classer les labels et dont il fallait les faire évoluer à l'avenir. Donc ça, on trouve que c'est une deuxième modalité intéressante d'action de la puissance publique dans le domaine, qui ressemble pas tellement au pilotage, mais qui visiblement joue un rôle aussi important. Et une troisième, alors là, qui est plus classique, mais sur laquelle on pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder, c'est en fait l'articulation entre labellisation et instrument de fiscalité. Parce que l'action par la fiscalité, c'est une des modalités, primordiales de l'action publique. Donc, savoir de quelle manière on utilise des labels pour mettre en œuvre l'action fiscale, si je puis dire, la régulation des mesures fiscales, c'est une vraie question qui nous interpelle dans nos terrains. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des trois terrains. Là, j'en suis à quoi ? J'en suis à 15 minutes, c'est ça ? Ou... c'est ça. Et donc j'en ai encore 15 ou j'en ai encore 20 ou 15-20, d'accord, ok. 15, d'accord, ok. Je vais parler en fait assez brièvement, et puis je m'arrêterai quand j'aurai plus de temps, de chacun de ces trois modes. Je vais commencer par dire deux, trois choses donc de l'histoire, de la lecture qu'on fait de la littérature primaire disponible sur l'histoire de HQE, BBC et Finergie, qui est une littérature qui est toute récente, parce qu'il y a une thèse qui a été soutenue, qui est la thèse de Lionel Cochard, par exemple. D'accord, ok. Alors maintenant, je vois ce qu'il sait, Lionel Cochard, mais connaît. Alors, très bien. Donc... ok, et donc, il y a un petit papier, mais très, très utile, qui a été écrit par Gilles, qui nous a servi, puis on a fait un peu de documentation quand même, on ne s'est pas limité à ce qui était existant. Mais donc, du coup, je vais dire sans doute des bêtises au regard de ces deux personnes qui ont travaillé de façon approfondie sur les deux cas, mais ce qui nous intéressait en fait dans le papier, c'était de voir comment est-ce qu'on peut les réutiliser au profit de notre propre réflexion, qui n'était pas forcément exactement la vôtre. Donc l'histoire en question, elle commence au début des années 90, puisque HQE a une histoire qui remonte à cette époque-là, et c'est au départ HQE une initiative de professionnels du secteur de la construction. Donc c'est une démarche qui est fondée sur une coopération des professionnels, avec en 1996 donc la structuration de cette démarche autour d'une association qui est l'association HQE. Et comme le savent beaucoup de professionnels du domaine, HQE a consisté pendant assez longtemps, enfin a été une référence assez structurante pour la mise en œuvre de critères liés à l'éco-construction, l'éco-gestion, le confort et la santé, et donc pas du tout seulement les critères de performance énergétique. Donc à partir des années 2000, HQE s'est engagé vers la certification. Donc on voit bien que là on a déjà une perméabilité très forte entre, d'un côté, des formes de structuration d'un label qui sont basées uniquement sur un accord entre professionnels et une évolution vers la normalisation. Et puis peu à peu, il y a eu véritablement une dynamique de certification qui s'est mise en place, qui a fait que HQE est rentré en se différenciant, si j'ai bien compris, c'est-à-dire en produisant des tas de références normatives différentes et adaptées à des situations différentes, mais qui a quand même solidifié HQE. Alors, au milieu des années 2000, il y a un autre label qui est apparu, c'est le label Effinergie, qui apparaît avec un consortium d'acteurs, lui aussi, au départ, pas du tout, il vient pas du tout ni de la réglementation centralisée, ni de l'État français central, ni des institutions de normalisation, mais il vient de consortiums d'acteurs qui sont des consortiums intéressants parce qu'ils intègrent à grande partie des acteurs publics, mais là situés plutôt au niveau régional. C'est-à-dire que l'histoire d'Effinergie, c'est des régions, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté, notamment. C'est des organismes comme le CSTB, c'est des associations, c'est des entreprises comme la Caisse des dépôts, le groupe Banque Populaire, qui se mettent ensemble et qui se mettent à définir ensemble des critères de performance énergétique plus adapté que ce qui existait déjà, donc je suppose plus adapté que ce que HQE proposait, avec en particulier un objectif qui était d'attaquer plus directement la question des consommations énergétiques, et donc il propose une certification de basse consommation. Ce label lui-même, Finergy, en fait, s'appuie sur Minergy. Enfin, il s'inspire d'un label suisse qui lui-même est déjà très 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 fort et très institué en Suisse depuis un certain temps, au moment où ça démarre. Donc, on a une histoire, une trajectoire là qui est assez spécifique. Et Finergy a reçu progressivement des financements publics. Et puis, en 2007, ce qui s'est passé, c'est que la puissance publique a consacré à Finergy en écrivant un label officiel qui est le label BBC, que vous connaissez donc. Qui a été institué par arrêté ministériel et qui reprend les modes de calcul des Finergy. En intégrant avec une astuce, enfin pas une astuce, mais une force apparemment des Finergy, qui est que c'est à la fois un label unique, mais qui permet d'intégrer des disparités régionales, parce qu'il a un mode de calcul des exigences de performance énergétique qui permet de prendre en compte la différence régionale. Ce qui est une exigence assez forte finalement dans le domaine du bâtiment, parce que construire des bâtiments BBC à Lille et à Toulouse, c'est évidemment pas du tout les mêmes contraintes. Alors là, si j'ai bien compris l'histoire, mais là je pourrais être rectifié par les spécialistes qui sont dans la salle, à la différence de HQE qui visiblement d'abord s'intéressait pas qu'à la performance énergétique, mais en plus était différencié en une série de marquages et de labels différents. Donc avec Effinergy, avec BBC, on a un label unique qui permet un petit peu de fédérer la force du label, mais qui se décline à des situations assez différentes. Donc ce qu'on voit bien dans ce cas-là, c'est que, d'abord l'idée que l'articulation entre intérêt public et privé se voit très bien, puisque au départ, comme je vous l'ai dit, c'est des régions qui sont à l'origine de privé et public. Donc je ne prends pas mon autre argument. Donc dans HQE, c'est au départ une initiative privée qui peu à peu va obtenir le soutien des pouvoirs publics. Et Effinergy, on est dès le départ dans un consortium qui mêle des intérêts publics et privés. On voit bien la question de la cohérence et de l'unicité de l'action publique, puisque là, c'est véritablement le positionnement des régions par rapport à l'État central qui est posé dans le cas d'Effinergy. Et évidemment, je suppose, parce que je ne connais pas bien l'histoire, mais je suppose qu'en arrière-plan, il y a des questions intéressantes aussi sur les dynamiques politiques de tout ça, c'est-à-dire sur le fait que, j'imagine, l'orientation politique des régions ne devait pas forcément être toujours exactement la même que l'orientation centrale des gouvernements. Enfin, je pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder de ce côté-là. Et le troisième point, c'est que du point de vue effectivement du fait qu'on n'a pas affaire à des instruments de l'action publique, hein, qui sont des données, c'est qu'on est dans une situation dans laquelle les pouvoirs publics créent sur le moyen terme une expertise sur ce qui est à la fois désirable en termes d'environnement et ce qui est faisable économiquement et éprouvé et validé dans le moyen terme. Ça se voit bien dans les modes de calcul, c'est-à-dire que la manière dont les labels sont construits montre bien qu'on trouve pas tout de suite la bonne façon de formuler des critères qui sont adaptés au règlement de la question qu'on veut. Voilà, alors je vais passer donc au deuxième terrain qu'on a un petit peu exploré, alors là plus proprement nous, donc on commence à faire un peu de terrain là-dessus, mais pour l'instant on s'est limité à du terrain de documentation. Donc en regardant la manière dont ce travail de mise en ordre du paysage des labels a été fait par le groupe sur les signes de qualité. Donc c'est un travail qui a débuté, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du Grenelle du bâtiment en 2010 et qui a rendu son rapport fin 2011. Et donc un de nos terrains, c'est d'essayer de voir comment ce groupe de travail a travaillé. Donc là on est juste tout au début, mais on a pour l'instant fait qu'une analyse de ce qu'ils ont fait, essayer de comprendre quels sont les modes d'action qu'ils ont mis en œuvre dans ce travail-là. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ils ont fait d'abord un inventaire des labels, ils en ont répertorié une cinquantaine, il y en a beaucoup plus évidemment dans le domaine de la construction, mais là ils se sont déjà limités à un certain nombre de labels qui étaient dans le périmètre qui s'était donné. Donc ils se sont efforcés de les classer, ce qui est complexe puisque chacun des labels joue son rôle dans un agencement marchand qui est très, très particulier. Donc évidemment il y a des labels portent sur les composants, des labels qui portent sur les bâtiments, sur les organisations. Donc ils ont retenu cette notion-là pour catégoriser les labels. Ils ont regardé quels étaient les labels qui reposent sur une vérification par tierce partie, d'autres qui reposent sur d'autres types de critères, parce qu'en fait les labels correspondent à des formes d'engagement, des formes d'applicabilité complètement diverses. Donc c'est pas du tout la même chose quand on a un label qui suppose un audit réel ou un audit seulement documentaire, etc. Donc ça c'est un des éléments de leur critère de classement. Donc ils se sont déjà efforcés d'essayer de mettre de l'ordre dans ce paysage. Et ils ont fait un certain nombre de recommandations qui sont intéressantes à regarder parce qu'elles montrent comment pour le coup, l'acteur public état central, si on peut dire, en tout cas acteur du Grenelle, de quelle manière les labels peuvent être utilisés pour coordonner l'action économique au niveau de l'ensemble du secteur. Donc parmi les recommandations qu'ils ont fait, donc il y a un certain nombre de recommandations qui concernent le lien entre le signe de qualité et ce qui est certifié, avec l'idée de renforcer, de clarifier les formes d'engagement, les formes d'épreuve, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une lisibilité assez claire entre ce que veut dire un label, enfin ce qu'annonce un label et qu'est-ce qui est effectivement vérifié derrière. Le constat étant qu'en fait, le grand public, n'en parlons pas évidemment, les gens qui ne sont pas des professionnels du domaine ne comprennent pas grand-chose à cette prolifération de labels, mais même les gens du domaine eux-mêmes, c'est compliqué d'arriver à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tel et tel type de certification comme démarche. Un deuxième type de recommandation concerne en fait le lien avec les institutions, avec l'idée d'aller vers des agencements marchands dans lesquels il y a des tierces parties, donc des formes de triangulation du rapport offre-demande qui sont assez forts. Un troisième type de recommandation, là, allait vers l'idée en fait qu'il fallait faire une sorte de sémantique ou de sémiologie de la qualité, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des rapports de signification interne entre les signes eux-mêmes pour rendre l'action du point de vue des labels plus lisible. En particulier, par exemple, sur le nom du label, sur le logo du label, sur son identité visuelle, c'est-à-dire tous les dispositifs qui définissent la perception du label comme signal sur un marché, il fallait que derrière, il y ait des liens véritables. Hein, par exemple, si vous faites un label sur deux composants qui sont liés techniquement, par exemple, avoir un label, avoir deux labels qui évoquent cette liaison technique. Si vous faites des labels qui portent sur le même composant, mais on va dire standardisé dans deux régions différentes, bah de ne pas avoir des logos visuels différents, mais avec le même logo, mais avec une déclinaison du logo sur les deux échelles. Donc là, on voit bien que le travail de mise en ordre, il porte sur la manière dont l'acteur économique peut s'appuyer sur ces outils-là pour comprendre la manière dont les biens sont qualifiés en tant que biens sur le marché. Alors un quatrième type de recommandation portait sur la création de nouveaux labels, parce qu'un des problèmes c'est que trop de labels tuent le label. Donc le groupe de travail fait des recommandations pour dire à quel endroit on a vraiment besoin de créer des nouveaux labels, des nouvelles médiations sur le marché, et à quels autres endroits il faudrait limiter la production de nouveaux labels parce que finalement personne ne s'y retrouve. Une cinquième recommandation porte sur la manière dont les labels peuvent être utilisés par les acteurs publics eux-mêmes, donc avec un volet sur l'éco-conditionnalité dont je vais parler, et puis un volet sur les achats, c'est-à-dire que les acteurs publics peuvent s'appuyer eux-mêmes, les régions, notamment les communes, sur les labels pour choisir leur fournisseur. Une sixième recommandation, c'était sur l'articulation entre le niveau national et le niveau international. Et là, on voit bien qu'on est dans un univers qui n'est pas du tout borné par des frontières nationales. C'est-à-dire que il y a une dynamique, la dynamique notamment européenne joue très très fortement sur ces agencements-là. Et la dernière recommandation était en fait sur la mise en place d'un observatoire. Donc là, c'est une mesure assez classique. Dès qu'on ne sait pas quoi, ce qui ce qui se passe économiquement dans un secteur, on met en place secteur économique ou pas, d'ailleurs, on met en place un observatoire. Donc on voit bien que je ne critique pas, c'est très bien, mais c'est une mesure qui d'une certaine manière je ne vais pas dire qu'elle coûte pas cher, mais elle n'est pas d'une originalité, c'est pas une mesure d'action publique spécifiquement originale. Donc on voit bien que là il y a une sorte de travail qui est de type code de la route, hein, c'est un petit peu un code de la route du label que ce groupe du Grenelle Environnement a essayé de mettre en place. Et donc ce qu'on aimerait voir, c'est qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un code de la route du label. Donc on va essayer d'aller rencontrer ces gens et qui nous expliquent un petit peu comment ils se sont débrouillés eux-mêmes, sachant que là aussi, pour revenir aux trois points que j'évoquais tout à l'heure, l'articulation entre le public et le privé, on la voit bien parce que ce groupe du Grenelle Environnement, c'est un groupe qui évidemment il fonctionne comme tous les groupes de travail du Grenelle par agrégation d'acteurs publics et d'acteurs industriels. On fait venir des représentants de grandes entreprises, des syndicats, des fédérations, etc. Donc on est dans des univers très hétérogènes. On voit bien la cohérence de l'action publique, c'est-à-dire qu'il y a une tentative d'organiser à un niveau central les interactions et notamment, notamment de mettre sous le tant que possible, enfin de contrôler tant que possible les échelons régionaux, notamment du point de vue de la création de nouveaux labels. C'est un des points qui était apparent dans ce cas-là. Et puis, du point de vue de la capacité à ce que les labels deviennent des instruments, là, ce qui nous frappe, c'est que du point de vue de la puissance publique, là, c'est l'ensemble du secteur qu'elle regarde. Et ça, c'est une perspective qu'on peut parfois oublier quand on regarde les labels les uns à côté des autres. C'est-à-dire que les labels les uns à côté des autres permettent pas forcément de comprendre comment est-ce que les effets économiques sont sommés à l'intérieur d'un secteur, parce que très souvent, en fait, à l'intérieur d'un secteur ou d'un ensemble de marchés, les interconnexions entre les marchés vont produire des tas de choses. C'est quelque chose que l'économie connaît très bien, mais que la sociologie, finalement, ignore encore un tout petit peu. C'est l'économie, elle se tape la question d'équilibre général depuis Léon Valras, donc elle sait que c'est difficile et que ça marche pas, mais au moins, elle se tape la question, tandis que parfois, encore, je trouve, en sociologie économique, les sociologues de sociologie économique sont encore un peu timides pour aller vous regarder qu'est-ce que c'est que les interconnexions entre les marchés, alors que dans les interconnexions entre les marchés, c'est véritablement toute la dynamique économique qui se fabrique. Donc là, avec ce travail de surplomb qu'essaie de réaliser ce groupe du Grenelle de l'environnement, on en voit un certain nombre d'enjeux, c'est-à-dire l'idée, c'est pas simplement d'avoir un label qui coordonne un marché, mais c'est regarder comment, quand on additionne tous les labels, on arrive à des ensembles articulés, qui sont des filières ou des secteurs qui produisent globalement des effets compatibles avec le développement durable ou contre-productifs avec le développement durable. Donc là, on en voit bien les enjeux. 5 minutes, il n'y aura pas de problème. Je vais passer très vite, c'est la partie que je connais le moins bien. Donc je m'évitera de dire des bêtises. C'est Aurélie qui la connaît très bien pour ne rien vous cacher, donc elle pourra corriger. Troisième point, c'est que cela dit, c'est un point intéressant, donc ça vaut le coup même en 5 minutes d'en dire quelques idées. Donc articulation entre labellisation et fiscalité. Là où la question est très intéressante, c'est qu'à partir du début de l'année prochaine, va se mettre en place un dispositif dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle l'éco-conditionnalité, qui fait que la réalisation de travaux pour les particuliers l'obtention d'avantages fiscaux pour les particuliers sera conditionnée au fait que le prestataire des travaux soit, on va dire, reconnaissable, identifiable par rapport à un label existant ou à un ensemble de labels existants. Donc ça, c'est une mesure très qui va sans doute modifier un peu le paysage de... Alors là, pour le coup, on arrive vers le consommateur final, donc les questions d'acceptabilité peuvent re-rentrer véritablement. Donc ça, c'est pas celle qu'on a travaillé le plus pour l'instant, mais là, il y a sans doute plus des incidences sur les questions d'acceptabilité. Je pense qu'on va les rencontrer, à mon avis, d'ailleurs, assez rapidement. Alors ce qu'il faut dire sur ce terrain-là, c'est que ce qui est intéressant, donc on est parti là, en fait, du contexte de la mise en place du prêt à taux zéro qui a été lancé en 2008-2009, c'est ça, Aurélie, et dont on s'est rendu, enfin pas nous, mais dont les acteurs publics se sont rendus compte au bout d'un ou deux ans qu'il ne fonctionnait pas très bien. Donc le prêt à taux zéro, c'est donc le prêt qui permettait de fournir des exonérations à des particuliers qui faisaient des travaux de rénovation énergétique. Et ce qu'ont mis en évidence les retours d'expérience sur ce prêt, c'est qu'il ne fonctionnait pas très très bien. Et une des difficultés, une des raisons pour lesquelles il ne fonctionnait pas bien, c'est que pour avoir le prêt à taux zéro, il fallait être éligible. Et qui était chargé de savoir si des travaux présentés par un particulier étaient éligibles au prêt, c'était les banques. Or, les banques, leur métier, ce n'est pas véritablement le bâtiment, malgré le fait qu'une grande partie de leur activité consiste à financer de l'achat immobilier. Malgré tout, ce n'est pas leur compétence cœur, comme qui dirait. Et donc, l'idée a consisté à dire, on va en fait utiliser des labels pour simplifier le travail des banquiers, simplifier l'instruction des dossiers et permettre de booster un petit peu le fonctionnement du prêt à taux zéro. Donc, c'est ce qui a été mis en place... c'est l'idée qui a été mise en place et donc qui va s'appuyer, qui va rentrer en action à partir du du début décembre 2014. Là, il faudra que si vous présentez si vous faites faire des travaux, si vous voulez pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, des mesures fiscales, etc., il faudra que vous fassiez ça avec, par exemple, un professionnel qui répond au label éco-artisan ou au pro de la performance énergétique. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Pour pouvoir bien coordonner cette action-là, les pouvoirs publics ont été amenés à créer un label de label. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de récurrence du label, c'est-à-dire que au début ils ont dit on va dire la liste des labels qui sont éligibles, mais comme en fait il peut y avoir beaucoup de labels éligibles, il y a un niveau un peu supérieur de l'action qui a été défini, qui était de dire on va faire un label reconnu Grenelle Environnement. Donc le label il s'appelle RGE, reconnu Grenelle Environnement. Donc il a l'avantage d'être transverse. Et je pense qu'il a l'avantage aussi d'avoir une visibilité du point de vue du consommateur final, une reconnaissance, une identifiabilité, si je puis dire, du point de vue du consommateur final, ce qui est sans doute pas forcément le cas de tous les labels de certification qui existent déjà. Parce que autant peut-être éco-artisan, ça parle au grand public, parce que ça a été sans doute fait pour parler au grand public, mais c'est pas moi, c'est pas mon ordi. Hein. Mais c'est celui de... je sais pas qui... Mais il y a d'autres labels, j'enlève parce que vous ne m'écoutez plus, donc c'est bon, j'ai terminé. Donc il y a d'autres labels que Eco-Artisan qui parlent moins au grand public, et donc en utilisant le label RGE, reconnu Grenelle Environnement, on donne un signe qui est reconnaissable au niveau du grand public. Voilà.